Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h bien sûr, il est à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler des grands oubliés de notre santé, nos pieds. Et oui, on a tendance à les négliger, pourtant sans eux, impossible de tenir debout. Ce n'est quand même pas rien, donc nous allons vous décrypter certains des petits et gros bobos qui peuvent les concerner. La lux valgus, les problèmes de pieds plats, l'épine calcanéenne. On va tout vous expliquer, une émission en partenariat avec le magazine Tempo Santé. Et pour répondre à toutes vos questions, deux invités sur notre plateau, Sylvia Pinoza, rédactrice en chef du magazine Tempo Santé, ainsi que le docteur Blandine Demeulenard. Elle est chirurgienne orthopédiste à l'Institut du Pied et de la Cheville à Paris. Ensuite, comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque nous rejoindra dans ce studio pour sa chronique beauté. Il va nous parler de la cosmétique de demain, un saut dans le futur où l'intelligence artificielle nous rendra encore plus jolies. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, il sera question de baisse de libido et de dépression saisonnière.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par cette question de Maëlle. Écoutons-la.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Alors en fait, moi je suis enceinte de 4 mois et mon médecin vient de m'annoncer que je suis atteinte de diabète gestationnel. Ma grossesse m'angoissait déjà assez avant d'apprendre cette nouvelle. Maintenant, je suis encore plus inquiète. Je voulais savoir si le diabète pouvait avoir des impacts sur mon bébé. Je vous remercie d'avance de votre réponse.
Alors Jimmy, d'abord pour démarrer tout ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est finalement le diabète gestationnel, donc de grossesse, qui ne touche pas que des femmes qui sont déjà diabétiques avant de tomber enceinte hein ?
Exactement, alors le diabète gestationnel regroupe deux choses. Des patientes qui sont diabétiques et qui l'ignoraient durant leur grossesse et dont la grossesse va révéler le fait qu'elles sont diabétiques. Et puis le diabète lié proprement à la grossesse qui va justement faire qu'on va se dire la patiente va devenir diabétique à cause justement de cette grossesse et dont le taux de sucre va se résorber, s'améliorer au moment de la accouchement et en postpartum.
Alors pourquoi tout d'un coup une femme qui n'était pas diabétique avant devient diabétique pendant sa grossesse ?
Alors il faut dire que c'est assez rare malgré tout, on estime la fréquence entre 2 et 6%, même si ça varie des populations. On pense qu'il y a une intolérance au glucose durant la grossesse, le taux de sucre va augmenter, il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance, mais on sait que toutes les femmes ne vont pas en avoir, il y a certains facteurs de risque qui vous prédisposent au diabète gestationnel. Le plus fréquent c'est l'âge, après 35 ans, vous avez 15% de risque de faire du diabète gestationnel. Votre poids en particulier, le surpoids ou l'obésité augmente aussi le risque de diabète gestationnel. Même chose si vous en avez déjà eu par le passé ou si vous avez eu un gros bébé, on appelle ça des macrosomes, un bébé de plus de 4 kilos, vous expose dans des grossesses futures à un diabète gestationnel.
Alors Maëlle, elle angoisse et on peut le comprendre, avoir une nouvelle maladie qui surgit comme ça tout d'un coup alors qu'on attend un bébé, ça peut engendrer du stress, mais on va la rassurer, on sait le traiter aujourd'hui le diabète gestationnel et pas toujours avec des médicaments d'ailleurs.
Non, évidemment, la première chose c'est une surveillance, on va vous demander de contrôler votre taux de sucre, de voir une diététicienne, pratiquer un peu d'activité physique,
d'être suivi justement. Un petit régime s'il le faut.
Et ouais. Voilà, et surtout on va suivre la grossesse et si besoin, parfois on a besoin de recourir à l'insuline.
D'accord. Elle pose aussi la question de la conséquence pour son bébé si on traite le diabète gestationnel, j'imagine qu'il n'y en a pas tellement, mais il peut y en avoir.
Il y en a, c'est pour ça qu'il faut les traiter. Ça donne des gros bébés, donc c'est mignon un gros bébé, mais ça passe pas dans le bassin. Et c'est en train de ce qu'on appelle une dystocie des épaules. Et à ce moment-là, on tire sur le bras du bébé, c'est en train d'une paralysie du plexus brachial.
Oui, donc,
c'est des bébés qui
font
plus d'hypoglycémie et c'est des bébés qui vont aussi faire plus de détresse respiratoire, sans parler des conséquences pour la maman, accouchement prématuré, extraction avec justement des instruments, avec un risque d'hémorragie plus important. Donc il y a de vraies conséquences, raison pour laquelle il faut traiter un diabète gestationnel.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va prendre tout de suite une deuxième question pour vous, celle que nous a laissé Fabrice. On l'écoute.
J'avais une question sur les troubles bipolaires par rapport au cannabis. Donc vous disiez que ça pouvait déclencher en fait des crises bipolaires. Je voulais savoir ce qu'il en était du CBD là, qui se rapproche un petit peu du cannabis, mais sans apparemment les effets néfastes. Je sais pas. Alors, si vous avez des réponses à ce sujet-là, parce que j'ai une connaissance qui effectivement a ce trouble-là, et savoir si je peux lui conseiller d'arrêter de consommer également du CBD ou pas.
Jimmy, alors peut-être d'abord rappeler ce qu'est le CBD en comparaison finalement avec le cannabis.
Quand vous fumez un joint, vous avez deux choses. Vous avez du THC, c'est la molécule qui va être responsable des effets psychogènes, le fait d'être détendu, euphorique. Et puis vous avez du CBD, pardon, le cannabidiol, qui va avoir ses effets thérapeutiques un peu secondaires avec des sensations de soulagement, mais qui ne va pas être responsable de risque de troubles bipolaires. On l'avait bien dit, Fumer des joints vous expose à des troubles psychiatriques. En revanche, le CBD, celui qu'on peut trouver dans certains commerces, lui ne pose pas de problème au point de vue psychiatrique.
Justement, vous l'avez dit, le CBD aujourd'hui, dans des produits dérivés, on en trouve un peu partout, dans des huiles, sur Internet ou dans des boutiques spécialisées. Est-ce qu'il y a des risques justement pour les gens qui en consomment ?
Alors ça va dépendre de quelle boutique le propose. En réalité, on le propose pour des douleurs, parfois dans le cosmétique, des vertus anti-stress sous forme d'huile,
pour dormir,
de gélules.
Ouais, certains.
Exactement, sous forme d'inhalation, de vaporation, même de fleurs séchées. Il y a peu de risques si la réglementation est respectée. C'est ça le risque en achetant sur Internet. Vous pouvez ne pas avoir le bon dosage de THC et de CBD, donc soyons prudents pour le moment.
Et quitte à parler de l'efficacité, justement, pour le coup, pour vous disiez pour le sommeil, l'anxiété, c'est prouvé ou c'est pour l'instant c'est un peu empirique, non peut-être ?
Alors, il y a une grande expérimentation qui est en cours, qui débute à la fin du mois de mars. 3000 patients qui vont être traités pendant 2 ans avec des maladies graves, notamment de la sclérose en plaques. Et pour l'instant, on a retenu 5 grandes pathologies pour lesquelles le cannabis thérapeutique pourrait être efficace. C'est la douleur neuropathique, les scléroses en plaques ou après un AVC, les contractions musculaires que vous pouvez avoir, certaines formes d'épilepsie résistante lorsque vous avez un traitement avec des chimiothérapies pour lutter contre les effets secondaires, et puis dans les soins palliatifs. En dehors de ces 5 critères, eh bien, il n'y a aucune preuve de l'efficacité du CBD. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, mais qu'il faut des expérimentations et d'être patient et pas de l'acheter pour un oui ou pour un non.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour dans son rendez-vous tous les jours de 15h à 16h et c'est le moment d'accueillir nos deux invités pour ce dossier du jour en partenariat avec le magazine Tempo Santé. On va commencer par vous, Sylvia Pinoza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de Tempo Santé et vous avez donc coordonné le tout dernier numéro qui est en kiosque en ce moment, un numéro avec un grand dossier consacré à nos pieds, avec notamment 5 pathologies. On va les détailler que vous passez à la loupe dans ce magazine pour enfin marcher sans douleur. Et peut-être pour démarrer, rappelez-nous Sylvie, à quoi ils nous servent nos pieds ? Pas qu'à marcher d'ailleurs. Hein.
Non, pas qu'à marcher parce qu'ils nous servent également, ce sont eux qui reçoivent le poids de notre corps. C'est eux qui subissent aussi les impacts au sol chaque fois que nous avançons pas à pas. Et c'est aussi eux qui vont stimuler la circulation et le retour veineux chaque fois qu'on avance.
Oui, donc bien plus que marcher, on l'a bien compris. Notre deuxième invité, c'est vous, docteur Blandine Demelenard. Vous êtes chirurgienne orthopédiste à l'Institut de la Cheville et du Pied à Paris. Des pieds, vous en soignez tous les jours, vous en réparez au quotidien. Et un pied, on va peut-être le préciser d'abord, ça nous paraît tout simple. Nous, on se dit, bon, ben, le pied, c'est le pied. Mais c'est une architecture à l'intérieur qui est très complexe, en réalité.
Tout à fait. C'est une architecture extrêmement complexe, une des plus complexes de l'organisme, puisque ça comporte non seulement 26 os et 16 articulations, mais en plus, il y a 20 muscles et surtout 107 ligaments sur cette toute petite surface. Et c'est extrêmement précis et extrêmement complexe, toutes ces articulations ensemble.
Ah oui, quand même, 107 ligaments. Mais moi, c'est je suis dingue, coaché, hein, je me dis, non, je suis docteur,
hein.
Je ne savais même pas
ouais,
ça. Quoi,
il y en a deux de pieds en plus. Hein,
donc. Ah ouais, non, mais je vais me cacher, là, je vais revoir mon anatomie. Alors d'ailleurs, Sylvia Pinoza, on n'a pas tous les mêmes pieds. Il y a 3 grandes familles de pieds. Moi, je connaissais les Grecs et les Égyptiens.
Vous avez les Égyptiens, j'en suis sûr.
J'ai les pieds moches surtout. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle différence on peut avoir ? Je crois que ça vient d'ailleurs de l'art.
Oui, voilà, c'est en observant la statuaire égyptienne ou antique, on s'est rendu compte qu'on ne représentait pas les pieds de la même façon à travers les époques. Alors, il y a les Égyptiens qui, eux, ont tendance à... Enfin, ont majoritairement représenté leur statue avec un orteil, le gros orteil plus long que les autres. Ensuite, il y a les Romains qui, eux, ont... c'est plutôt le deuxième orteil qui était plus long. Et après, si on se penche un peu sur...
Les Grecs.
Et si on se penche sur la statuaire romaine, là, on va voir les 4 premiers orteils qui sont alignés et qui ont à peu près les mêmes longueurs. Bon. Et puis, on retrouve ces caractéristiques sur les populations aujourd'hui. Alors, les pieds égyptiens, c'est à peu près 1 pied sur 2. Et les 2 autres, c'est à peu près également réparti, 25-25.
Très bien. Bon, Jimmy, vous, ils sont moches. On ne sait pas s'ils sont égyptiens ou grecs, on s'en fiche. Docteur Demelenard, vous nous avez expliqué de quoi ils sont faits, nos pieds. Mais qu'est-ce qui peut les fragiliser concrètement, les abîmer au quotidien ?
Alors déjà, il y a une question de morphologie qui est liée à l'hérédité. Le fait d'avoir des pieds creux ou des pieds plats, quand c'est très prononcé, peuvent favoriser certaines pathologies. De même, les maladies héréditaires peuvent favoriser certaines pathologies telles que la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose, le diabète, l'artérite sont des pathologies qui influent sur la formation des pieds et l'évolution des pieds au cours de l'âge. Le troisième facteur qui a évidemment un important retentissement sur les pieds, c'est le surpoids. Pourquoi ? Parce que si on est en surpoids, cela augmente la pression sur les cartilages articulaires qui donc vont s'user beaucoup plus vite, ce qui va d'une part entraîner l'apparition d'arthrose, parfois prématurée, et d'autre part augmenter les déformations s'il y en a déjà présentes.
Et est-ce que dans les chaussures du quotidien, on peut aussi abîmer nos pieds? Je ne sais pas, est-ce qu'être en basket, c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on est
vous,
tous,
c'est tous les jours, alors si ce n'est pas bon, basket, vous n'êtes pas dans la mouise.
Alors, évidemment, les chaussures ont un grand rôle dans la genèse de certaines pathologies au niveau des pieds. Notamment, déjà, les chaussures trop serrées. Et notamment trop pointu, qui comprime l'avant du pied
arrêtez
et les orteils.
Arrêtez les escarpins, Jimmy, arrêtez les escarpins.
Voilà, c'est ça. Parce que cela entraîne une compression des nerfs, des vaisseaux, des articulations, ça entraîne des déformations des orteils. Mais il n'y a pas que les chaussures trop serrées, il y a aussi les chaussures avec des talons hauts. Alors attention, il n'est pas question d'empêcher les femmes de porter des talons hauts pour
mais
être élégantes.
J'ai cru, mais non.
Non, non. Pour les porter, quand il s'agit de sortir, bien sûr, il n'y a aucun souci.
Mais pas tous les jours, quoi.
Il faut que ça reste occasionnel et pas au quotidien pour aller travailler.
Alors justement, au quotidien pour aller travailler, est-ce que ça existe, la chaussure idéale? On ne va pas faire la pub d'une marque de chaussures en particulier, mais est-ce qu'il y en a qui permettent de garder des pieds bien en forme, finalement?
Oui, alors c'est une chaussure donc, dont l'avant du pied n'est pas trop serré, confortable, dans laquelle donc, on peut remuer les orteils sans
d'accord.
qu'ils soient comprimés.
Moi, ça remue, donc c'est bon.
Voilà. Avec une chaussure qui tient bien le pied, tant à l'avant à l'arrière, les tongs sont fortement prohibés.
Et qu'est-ce que vous pensez des bottines comme ça?
Alors les bottines, c'est très bien, puisqu'en
ça,
fait, la meilleure des chaussures, c'est la chaussure qui a un petit talon de 3-4 cm, ce qu'on appelle le talon bottier.
D'accord.
Donc
ça,
les
bien.
Bottes, effectivement, qui sont en général assez larges et avec ce genre de petits talons, sont parfaites. Mais il faut savoir que la chaussure donc, qu'il faut aussi éviter, ce n'est pas seulement la chaussure à très haut talon, c'est aussi la chaussure complètement plate. Puisque la chaussure complètement plate...
La ballerine, par exemple.
Voilà, la ballerine, par exemple, d'une part, n'a pas une semelle épaisse, ce qui n'est pas bon parce qu'on ressent toutes les irrégularités du sol. Et d'autre part, ça tire sur le tendon d'Achille en arrière, ce qui peut entraîner des pathologies du tendon d'Achille. Et ça tire sous la voûte plantaire, ce qui peut entraîner des pathologies telles que la ponévrosite plantaire.
Alors, vous avez parlé de certaines pathologies qui peuvent fragiliser le pied. On pense tout de suite aux diabétiques. Pourquoi est-ce qu'un diabétique va forcément ou risque d'avoir des problèmes de pied?
Alors, le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. Et cet excès de sucre dans le sang peut avoir deux retentissements. Premièrement, il peut atteindre les nerfs qui deviennent moins sensibles. Donc, si la personne se blesse au niveau du pied, il ne va pas s'en apercevoir et la plaie peut s'infecter. Si elle s'infecte, ça peut entraîner ensuite une infection des parties molles avoisinantes avec des infections ostéo-articulaires, ce qu'on appelle une arthrite. Et voire même une infection du sang, une septicémie.
Donc à la moindre plaie, évidemment, d'un diabétique, il faut consulter. Sylvia Pinoza, nos pieds nous servent donc principalement à marcher, mais pas que. Mais c'est quoi bien marcher? Parce que dans le magazine, justement, il y a une page qui est consacrée. Ça nous semble la plus évidente des actions, mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Hein.
Oui, ce n'est pas seulement mettre un pied devant l'autre, c'est avoir un peu conscience de son mouvement. Alors quand on met le pied par terre, c'est par exemple le déployer totalement, du talon jusqu'à la pointe des pieds. Alors on passe du talon jusqu'au bord externe, jusqu'aux orteils. Ça va être aussi ne pas essayer de garder
la tête haute,
regarder devant soi et plutôt que de baisser la tête pour regarder où l'on marche, plutôt de baisser les yeux.
Donc ça on marche dans des crottes de chien, mais au moins on marche
voilà,
bien.
Voilà, mais
quoi.
Ça évitera des tensions au cou parce que le corps n'est pas très bien aligné. Ça va être aussi puisque quand on marche, c'est bien d'engager l'ensemble du corps. Ça va être aussi par
mobiliser les mains,
de faire un mouvement de balancier. Mais aussi de contracter le périnée
et les abdos qu'on n'a pas pour
éviter d'avoir un ventre trop saillant.
Bah voilà. Finalement, on a compris que marcher, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. Merci à toutes les deux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec Tempo Santé, vous d'abord Sylvia Pinoza, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de ce magazine et puis en plateau avec nous également le docteur Blandine Demelenard. Vous êtes chirurgienne orthopédiste à l'Institut de la Cheville et du Pied. Et à présent, on va s'intéresser à quelques-uns des petits et gros bobos qui peuvent toucher nos pieds justement. On va démarrer par les pieds plats. Un problème, Sylvia, qui peut concerner particulièrement les enfants. Nos pieds, en fait, on ne le sait pas forcément, mais ils mettent du temps à prendre leur forme définitive.
Voilà, chez les filles, ils auront leur forme définitive autour de 8-11 ans. Chez les garçons, un petit peu plus tard, vers 11-14 ans. Et c'est après ce moment-là qu'il faudra s'inquiéter de regarder avec attention leurs pieds.
Et justement, du coup, donc les tout-petits, docteur, on les laisse tranquilles avec des pieds plats? Un enfant de 3-4 ans, on ne va pas s'exciter en se disant « Oh là là, ça y est, c'est la catastrophe ». On attend quel âge pour venir vous voir, vous ou peut-être le pédiatre dans un premier temps?
Alors effectivement, les enfants tout petits ont très souvent, majoritairement, des pieds plats. Il y a des ethnies aussi qui favorisent les pieds plats. Par exemple, les personnes noires ont souvent les pieds plats sans que ce soit du tout pathologique. Mmh. Donc il ne faut absolument pas s'inquiéter quand un enfant a des pieds plats. En revanche, il faut s'inquiéter effectivement à partir de 8-10 ans quand l'enfant... s'il a des pieds plats, s'il s'en plaint, c'est-à-dire s'il a des douleurs, ou s'il tombe fréquemment, ou s'il se fait des entorses de façon répétée. À ce moment-là, il faut commencer par consulter évidemment d'abord son pédiatre. Et puis ensuite, si le pédiatre le juge nécessaire ou s'il n'arrive pas à résoudre le problème, venir en consultation spécialisée, voir un chirurgien du pied.
Et docteur, je crois qu'un enfant qui n'avait pas forcément les pieds plats, enfin peut-être tout petit mais pas ensuite, mais ça peut arriver aussi sinon ce problème-là. Au moment de l'adolescence, c'est ce qu'on appelle des pieds qui décompensent. Expliquez-nous pourquoi et comment on s'en rend compte de ça chez un ado.
Mais alors ce sont des pieds, ce sont des ados qui ont déjà des pieds à tendance plat, mais sans retentissement particulier, donc avec une voûte plantaire interne peu prononcée et de façon relativement brutale et sans qu'on sache pourquoi. Ce pied plat peut décompenser, c'est-à-dire que le pied va s'affaisser complètement à sa partie interne avec le talon qui, lui, va partir vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle une décompensation en pied plat valgus, qui, dans ce cas-là, entraîne des douleurs.
Mmh. Et si jamais on a passé l'adolescence tranquillement avec des pieds plats, est-ce qu'on peut se réveiller à l'âge adulte, je ne sais pas, à 40 ans, tout d'un coup, avoir des pieds plats qui nous font mal
à
et nous font souffrir ?
À force de porter des baskets, Jimmy, faites attention.
Alors, oui, tout à fait. Le pied plat peut rester asymptomatique pendant des années à l'âge adulte et brutalement devenir douloureux. Pourquoi ? Parce que au niveau du pied, au bord interne du pied, il y a un tendon qui s'insère sous la voûte plantaire, qui s'appelle le tendon tibial postérieur, dont le rôle est de creuser le pied plat, ou tout pied de toute façon. Sauf que chez le pied plat, il a beaucoup d'efforts à faire, et à force d'en faire pendant des années, il finit par fatiguer, et il peut s'abîmer, se rompre partiellement, ce qui occasionne des douleurs, un œdème, une tuméfaction, et des difficultés à marcher. Mmh. Et là, effectivement, il faut consulter, et assez rapidement.
Alors justement, on va passer aux solutions avec vous, docteur. La prise en charge, hein, finalement, de ces pieds plats, est-ce qu'il y a des examens, d'ailleurs, qui permettent de préciser ça, ou est-ce que vous voyez en consultation, vous dites, ah oui, c'est un pied plat, là, je peux traiter comme ça, ou est-ce qu'il faut confirmer par, j'en sais rien, une radio ou quelque chose d'autre ?
Alors, le diagnostic est effectivement clinique, en consultation. À l'examen du pied, on s'aperçoit que le pied est plat, avec une sévérité plus ou moins importante. Mais il faut faire des examens complémentaires avant de poser un diagnostic, une indication de traitement, qu'il soit chirurgical ou non. Donc l'examen de base, ça reste la radiographie en charge pour apprécier la sévérité du pied plat, auquel on peut rajouter un scanner ou une IRM et ou une IRM pour rechercher s'il n'y a pas des ponts osseux au niveau des articulations, ponts osseux anormaux qui favorisent ces pieds plats. Et sur l'IRM, voir justement si le fameux tendon tibial postérieur est souffrant ou pas.
Ah oui, finalement, il y a pas mal de choses à voir dans les pieds, on n'imagine pas.
Ah, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Et d'ailleurs, les chirurgiens, vous adorez le bistouri et nous opérer, mais est-ce qu'avant de passer sur la table d'opération, on peut quand même essayer quelques petits traitements pour soulager un pied plat ?
Bien sûr, alors je vous rassure, on n'opère pas tous les patients qu'on voit en consultation. Donc, on commence toujours par un traitement non chirurgical, sauf s'il a déjà été mis en place auparavant et qu'on nous envoie le patient parce que ça n'a pas fonctionné, bien entendu. Le traitement non chirurgical associe le port de semelles orthopédiques pour recreuser la voûte plantaire interne, de la rééducation pour soulager le pied, pour assouplir le pied, et évidemment des antalgiques et des anti-inflammatoires en cas de douleur vraiment importante.
Bon, et quand vous avez la chance de pouvoir sortir le bistouri, comment ça se passe très rapidement, on va dire simplement, et est-ce qu'on se remet vite de ce type d'intervention ?
Alors, la chirurgie a plusieurs possibilités. On peut aller enlever des ponts osseux anormaux qui se forment au niveau des articulations et qui enraidissent le pied en mauvaise position. On peut faire une ostéotomie du calcanéum, qui est l'os du talon, qu'on va aller couper pour le redresser à une zone où il n'y a pas de tendon ou autre qui s'insère dessus et où il n'y a pas d'articulation, de façon à remettre le talon dans l'axe de la jambe pour que le pied ne soit plus ou plus autant plat valgus. Et enfin, on peut faire une arthrodèse, c'est-à-dire bloquer une articulation quand elle est vraiment non seulement déformée, mais en plus pathologique, notamment arthrosique.
Sylvia, Mélanie, elle a un énorme oignon. Elle n'ose pas le dire. Elle voulait absolument qu'on en parle.
Oui, je vais venir vous souffler ça, évidemment.
La consultation personnelle.
Mais alors, l'oignon, on appelle ça l'hallux valgus. Est-ce que c'est un problème qui touche un peu plus les femmes, d'ailleurs? Mélanie, vous voyez, vous n'êtes pas seule.
Et même beaucoup plus, puisque 95% des personnes atteintes seraient des femmes. Voilà, donc ça.
95%?
Ouais.
Oui, d'accord.
Ouais, c'est pas rien.
Ouais, c'est ça, vous avez des pieds moches, moi j'ai des oignons. Docteur de Melenard, pour terminer sur cet hallux valgus, quand même, c'est important, ça touche beaucoup de gens. Certains pensent que c'est une sorte de morceau d'os qui a poussé. Ça vient de quoi, l'oignon, l'hallux valgus ?
Alors, ça n'est pas du tout une excroissance osseuse qui pousse, c'est une déformation du pied. C'est-à-dire, c'est une déformation du gros orteil qui part vers l'extérieur du pied. Mais simultanément, le premier métatarsien, qui est l'os situé à la base du gros orteil, lui dévie vers l'intérieur du pied, donc dans l'autre sens, et s'écarte des autres métatarsiens. Donc, ça n'est pas une excroissance osseuse, c'est une déformation.
C'est pas non plus un légume qui pousse.
Non.
Il n'y a pas d'oignon.
Non. D'accord. Mais ça forme effectivement une déformation qui forme une bosse, qui ressemble un peu à un oignon, surtout si elle est inflammatoire quand elle est douloureuse.
C'est des deux côtés en général ou c'est que d'un côté ?
Non, c'est pas forcément bilatéral. Mmh. Il arrive qu'il n'y ait qu'un seul pied, mais de toute façon, comme nous ne sommes pas symétriques, quand les deux pieds sont atteints, ça n'est jamais au même degré.
Très bien. On va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas. Retour dans Sans Rendez-vous avec Cyclamed, qui valorise les médicaments non utilisés rapportés en pharmacie.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec Tempo Santé. Vous d'abord, Sylvia Pinoza, vous êtes rédactrice en chef de ce magazine. Et puis, vous également, docteur Blandine Demelenard. Je rappelle que vous êtes chirurgienne orthopédiste à l'Institut de la Cheville et du Pied à Paris. Alors, on a commencé un petit peu tout à l'heure à parler de l'hallux valgus, Sylvia Pinoza. Un problème de pied qui est très fréquent, je crois, l'oignon. Alors, Jimmy m'a cité, hein, c'est pas vrai du tout, mais c'est pas grave, on va dire que c'est mon cas. Qui peut avoir, je crois, par compte de sacrées conséquences sur la vie quotidienne des gens qui en souffrent.
C'est douloureux et ça le devient de plus en plus au fur et à mesure qu'il progresse. Et puis, c'est difficile de se chausser. Très vite, on va se dire, on va avoir du mal à se chausser.
C'est pour ça que je mets des grosses bottes. Hein. Moi, ça va mieux avec ça.
Et puis, on ne va pas avoir un appui très confortable au niveau du pied. On va déformer un peu ses appuis et créer des tensions sur le pied qui peuvent aller jusqu'à l'arthrose, si ce n'est pas pris à temps, ou même au pied plat.
Et justement, est-ce qu'on peut provoquer cet oignon, cet hallux valgus? Est-ce que de mauvaises chaussures, des chaussures trop serrées, peuvent l'aggraver ou le déclencher? Je ne sais pas.
Alors, le déclencher, peut-être pas, quoique la mode des talons aiguilles, avec le bout extrêmement serré qui est dans les années 60, nous a donné beaucoup de travail.
On a compris que c'est bon pour rien, les talons aiguilles, hein, pas trop. Le soir pour sortir, mais pas toute la journée. Quoi.
Donc, je pense que ça peut effectivement le déclencher si on en porte toute la journée pendant des années. Sinon, c'est un facteur aggravant parmi d'autres, évidemment, puisqu'il y a des femmes qui portent des talons aiguilles pendant des années et qui, fort heureusement pour elles, n'ont pas ce genre de problème. Mais c'est loin d'être la règle.
Quelle est la solution, justement, contre les oignons, contre l'hallux valgus? Là aussi, j'imagine qu'il y a le pan chirurgical et le pan, peut-être, il y a des choses avant de passer au bloc.
Alors déjà, bien se chausser, on vient de le dire.
Voilà.
Par ailleurs, quand
des orthèses, peut-être?
Oui, on peut mettre des orthèses quand on est en crise douloureuse, puisque l'hallux valgus évolue par crise. On a pas mal en permanence pendant des années. Lors d'une crise douloureuse, il y a une inflammation au niveau de l'articulation qui peut être soulagée par le port d'orthèse, soit des bandages qu'on met la nuit pour redresser l'orteil, soit éventuellement une petite cale en silicone qu'on met entre le premier et le deuxième orteil dans les chaussures.
Mais ça dure un temps, ça.
Ça soulage, ça n'empêche pas l'évolution ou l'aggravation de l'hallux valgus. Et de toute façon, il y a un moment où il va falloir passer par la case chirurgie.
Et justement, quand est-ce qu'on passe par la case chirurgie? Est-ce qu'on doit attendre le dernier moment quand on a tout essayé, ou il faut essayer de traiter peut-être un peu avant?
Non, alors il ne faut surtout pas attendre le dernier moment, parce que plus on attend, plus la déformation s'aggrave, plus il y aura un retentissement sur les orteils latéraux et sur le reste de l'avant-pied, avec des gestes qui seront plus lourds chirurgicalement, un résultat qui sera plus long à obtenir et peut-être un peu moins bon. Donc, par contre, il ne faut pas non plus opérer préventivement, c'est-à-dire qu'il ne faut opérer que si l'hallux valgus est douloureux par crise et ou gênant au chaussage. Mais on ne fait pas de chirurgie préventive et encore moins de chirurgie esthétique.
C'est quoi le principe de l'opération? Vous le coupez, l'oignon, ou comment ça se passe? Parce que bon, ce n'est pas une excroissance osseuse, on a compris, mais qu'est-ce que vous faites?
Ce n'est pas une excroissance osseuse, donc on ne va pas la raboter. Ça, ça ne marche pas.
C'est en tout cas, moi, j'ai connu quelqu'un qui l'a déjà fait. Il a beaucoup souffert dans les suites. Hein, c'est compliqué.
Oui, alors c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Ah. Et effectivement, ça ne marchait pas parce que ça continuait à évoluer. Et en plus, ça faisait extrêmement mal. Donc les gens en gardaient un très mauvais souvenir. Et c'est pour ça qu'on disait ne te fais pas opérer, ou alors le plus tard possible quand tu ne peux plus faire autrement. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Donc, il ne faut pas opérer trop tôt, mais il ne faut pas opérer trop tard non plus, vous l'avez compris. Et le principe de l'intervention, c'est de redresser le premier métatarsien et le gros orteil en réalisant une coupe osseuse, un peu comme une fracture, mais dirigée, tout à fait proprement, de façon à redresser le premier métatarsien et le gros orteil pour qu'il n'y ait plus de conflit avec la chaussure, plus de douleur et que ça n'évolue plus.
Sylvia Pinoza, on va parler d'un autre tendon, enfin d'un tendon, le tendon d'Achille. On connaît tous plus ou moins de noms, mais à quoi sert-il ?
Ben c'est déjà l'un des plus puissants tendons de notre corps. Donc, il va s'accrocher à l'arrière de notre cheville et au talon. Donc, il va faire le lien. Et c'est lui qui nous permet de fléchir notre pied, puis de se mettre sur la pointe des pieds. Donc, il faut qu'il soit puissant pour nous maintenir dans cette position.
C'est là le plus fort. J'avais aucune idée. Docteur Demelenard, le problème avec ce tendon d'Achille, c'est qu'il peut causer des tendinites. Dans quelle situation ça arrive?
Alors, les tendinites sont favorisées par les gens qui ont des pieds creux, très creux, parce que le calcanéum, donc l'os du talon, est très verticalisé. Et le tendon se retrouve pris en sandwich entre l'os et le contrefort de la chaussure. Mais c'est favorisé aussi, bien sûr, par la surcharge pondérale, puisque le tendon va travailler beaucoup plus, donc souffre. Et troisièmement, ça peut être favorisé par des chaussures dont le contrefort postérieur est très rigide, comme par exemple les chaussures de sécurité.
Ah oui, d'accord.
Enfin, le dernier facteur favorisant, c'est bien évidemment les sportifs, et notamment les joggeurs, qui sollicitent énormément ce tendon, qui parfois ne s'échauffe pas assez. Pour peu qu'ils aient des problèmes morphologiques associés, eh bien on peut déclencher facilement une tendinite.
Comment on le traite, ce tendon d'Achille douloureux, on va dire? C'est quoi le principal traitement?
Alors le traitement d'abord n'est pas chirurgical, dans une première intention. Il associe le port de semelles ou de talonnettes pour surélever le talon et donc détendre un petit peu le tendon, pour qu'il travaille moins. avec de la rééducation, avec de la mésothérapie, des glaçages, des étirements, des massages transverses profonds pour soulager, détendre, et éventuellement des ondes de choc pour essayer de faire cicatriser ces micro-fissures dans le tendon quand il y en a.
Bon, on peut avoir recours à la chirurgie, on ne va peut-être pas la détailler, mais dans quelle situation vraiment on en arrive à passer au bloc pour ça ?
Alors, on arrive à la situation chirurgicale quand tout le traitement chirurgical est un échec et que les douleurs perdurent au bout d'un an, deux ans, plus ou moins. Et puis aussi, s'il y a une fissure dans le tendon qu'on n'arrive pas à faire cicatriser.
Alors, on finit ce tour du pied avec l'épine calcanéenne, docteur. Alors, c'est un talon qui fait mal, mais pourquoi est-ce qu'on a mal ?
Alors, l'épine calcanéenne, en fait, c'est une douleur sous le talon liée à la tension sur une membrane qui relie la base des orteils au talon, qu'on appelle la peau névrose plantaire et qui est située entre la peau et les muscles. Cette membrane peut être un peu trop rigide ou souffrir, et à ce moment-là, elle tire sur son insertion au niveau du talon, sur l'os du talon, le calcanéum, et elle va donc se rompre partiellement ou s'enflammer à ce niveau-là, ce qui occasionne des douleurs intenses.
C'est fréquent, ça, comme bobo ?
C'est très fréquent. Là encore, c'est favorisé par certaines morphologies de pied, par le surpoids.
Et c'est très long à traiter, je crois.
Et c'est très long à traiter, puisque, en général, ça met bien un an à guérir.
Et à l'inverse, si on trouve sur une radio une épine calcanéenne qui nous fait pas mal, ben on la traite par le mépris.
Tout à fait.
Ben voilà, c'était le mot de la fin. Tout à fait, donc on le traite par le mépris. On ne va consulter finalement que si ça fait mal, et on ne traite que si ça fait mal l'épine calcanéenne. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier du jour en partenariat avec le magazine Tempo Santé. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il est en kiosque évidemment, au prix de seulement 4,95 €. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, on est heureux, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, Benjamin, on va parler de beauté connectée.
Eh oui, puisque nos salles de bain sont de plus en plus équipées en intelligence artificielle.
Alors,
c'est pas de la science-fiction, pas la vôtre, pas la vôtre, mais ça, c'est pas de la science-fiction ce que je vous raconte. Par exemple, chez L'Oréal, depuis 2014, on utilise des algorithmes pour parfaire notre beauté. Et leur dernier bébé s'appelle Modiface. C'est ce qui permet, eh bien, à vous et moi, Mélanie, eh bien, avec notre smartphone, d'essayer un rouge à lèvres, par exemple. Donc, même plus besoin de se déplacer en boutique pour tester le produit. Il suffit juste de faire un petit selfie. Et ça, c'est vraiment le futur de la cosmétique, comme le dit Camille Crolly. Elle est directrice de l'innovation chez L'Oréal.
En fait, ces solutions digitales, elles sont devenues indispensables pour n'importe qui s'intéresse à la beauté, qui veut soit choisir un produit, pouvoir essayer, comparer, s'informer, pour avoir une aide à son achat et te dire ça va être le bon produit qui va me correspondre, pour avoir un diagnostic. Donc tout au long de l'expérience beauté, ce sont des outils qui sont maintenant indispensables pour le consommateur. Et bien sûr, il y a un aspect fun, expérientiel, qui permet de rendre cette expérience beauté plus agréable pour le consommateur.
Et il n'y a pas que le rouge à lèvres que l'on peut tester, ça vaut également pour le fond de teint ou encore la coloration des cheveux.
Et si la coloration que ma femme a testée lui plaît, qu'est-ce qu'elle
peut
faire ?
Vous, vous pouvez avouer.
Eh bien, elle va pouvoir aller chez son coiffeur, lui montrer la coloration rêvée. Et c'est lui, le coiffeur, qui va chercher bien la meilleure combinaison de couleurs pour accéder à sa demande. Mais l'application va même encore plus loin, puisqu'elle va vous aider à trouver le coiffeur qui est le plus proche de chez vous, dans votre quartier, celui qui sera capable de faire votre coloration choisie.
Bon, bah c'est super tout ça. Vous nous avez parlé de technologie pour nous aider à nous maquiller ou nous coiffer, mais est-ce qu'on peut détecter des imperfections sur notre peau ?
Et oui, grâce à un miroir magique. En fait, c'est un miroir qui...
Celui de Blanche-Neige, là, c'est ça ? Non,
presque, c'est ça. Presque. Il a en quelque sorte en fait été éduqué par des centaines de milliers de selfies et de photos, et ce qui fait qu'il est capable de reconnaître des points noirs, des rides, un excès de sébum et bien d'autres impuretés. Et une fois que le diagnostic est fait, il va créer une crème sur mesure pour gommer vos défauts. Et j'ai pu tester cette intelligence artificielle avec Johanna Ifergan. Elle est biochimiste et fondatrice de la marque Abi.
Alors là, Johanna, donc je suis devant le miroir, je suis démaquillée, je vais retirer mon masque. Et je vais mettre mon âge.
Là, on propose toujours de prendre un selfie.
Donc là, on va prendre une photo. Il n'y a pas de filtre. On n'est pas sur les réseaux sociaux.
Là, la caméra va commencer à détecter et il faut se positionner.
Oula, ça va me créer des complexes.
Le scan est lancé. Là, c'est l'intelligence artificielle qui travaille.
Ouais, je vois mon visage qui passe sous différents scans. Et alors là, justement, le miroir, qu'est-ce qu'il analyse ?
Cette problématique, les rides, la rugosité, les taches, l'éclat du teint et les boutons.
Et donc là, je découvre mes résultats.
Donc, les rides, il n'y en a pas.
Bonne nouvelle, en même temps j'ai 28 ans.
Et là par exemple pour l'hydratation, on voit qu'au niveau des pommettes et du front, une peau déshydratée.
Et donc là ensuite donc, le miroir va créer ma crème sur mesure, c'est ça?
Exactement. Là, l'information est en train de partir au laboratoire pour dire, Benjamin, voilà ce qu'il a choisi, il faut lui préparer sa crème.
Et alors justement, il y a combien de types de crèmes possibles?
On est sur plus de 40 000 combinaisons possibles en soins sur mesure. Benjamin, vous allez dans 48 heures recevoir votre crème sur mesure chez vous, à la maison.
Merci beaucoup, Johanna.
Voilà, et ce miroir est pour l'instant disponible dans une centaine de pharmacies et instituts de beauté, mais vous pouvez l'essayer sur le site internet scanmyskin.com. Alors le scan est gratuit, mais la crème personnalisée, elle, vous coûtera entre 70 et 80 euros.
Bien, merci beaucoup Benjamin pour ce conseil beauté du vendredi.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être, la sexo, l'amour, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris, nous rejoint tout de suite en studio. Catherine, on va finir la semaine avec cette question d'Alexis. On l'écoute.
Bonjour, j'ai une petite question. Chaque année, à la même période, en hiver, j'ai une baisse de libido, donc de désir sexuel. C'est pas le fait que ma femme ne m'attire plus, c'est juste que j'ai pas envie de sexe. Est-ce que ce phénomène s'explique et du coup, est-ce que je dois prévenir mon partenaire? Merci pour vos conseils.
Catherine, on dit que l'été, enfin on entend dire que l'été, les tenues sont plus légères, la libido est peut-être plus présente, enfin on la voit plus, j'en sais rien. Est-ce que c'est vrai que l'hiver, il y a une baisse du coup à l'inverse de l'été, de libido en général ou pas forcément?
Alors,
il y a des saisons pour la sexualité.
Non, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des animaux, mais pas comme ceux qui ont une vie sexuelle rythmée justement sur les saisons. Nous, il n'y a pas de saisonnalité de notre désir, mais il y a une lecture bien évidemment de l'environnement. Donc pour certains, au contraire, l'hiver est le moment extrêmement douillé. La peau de bête, le feu de cheminée, ça c'est pour les fantasmes. Ça, on n'est pas obligé de l'avoir chez soi. Mais en l'occurrence, ça peut être au contraire le temps des rapprochements parce qu'on n'est pas en train de jouer au tennis, on n'est pas en train de faire des apéros avec les potes et on est à la maison et on vit sa sexualité douillette et potentiellement très créative. Mais pour certains d'entre nous, l'hiver est compliqué ou parce que ça renvoie historiquement à des histoires tristes pour soi ou tout simplement
Il est compliqué particulièrement.
Alors en plus, celui-là, il se complique, bien sûr, le précédent d'ailleurs, ça c'est plutôt le printemps. Mais effectivement, il semble très très long parce qu'il y a beaucoup d'empêchements alors qu'il ne fait pas moins 50 degrés dehors. Donc évidemment que cela rend la vie difficile d'aller se nourrir à l'extérieur pour pouvoir alimenter la relation à l'intérieur. Puis il y a un manque de luminosité l'hiver, très classiquement. Et puis il y a des gens qui sont extrêmement sensibles. Leurs neurotransmetteurs sont très fragilisés. Alors est-ce qu'il est question de la façon qu'ils ont de se nourrir, est-ce qu'il est question de leur histoire personnelle, de stress particulier à cette période-là, mais dans une grande difficulté d'avoir des hormones de la sérotonine, les hormones de la valorisation de soi suffisamment haut pour avoir une ambition pour eux-mêmes et donc de partir à la conquête de l'autre.
Et en plus, en hiver, il fait froid, souvent même dans les appartements, on met le chauffage, on met des gros pulls, des grosses chaussettes.
Il faut se déshabiller.
C'est
difficile de se déshabiller, effectivement.
Ah oui, en plus, on a la flemme de se dire oh, « Attends, j'ai trois couches de pulls. » Oh là, donc c'est peut-être plus difficile en hiver ou ça, c'est juste des prétextes.
Alors,
je pense que les chaussettes et les trois pulls, c'est des prétextes, hein, Jimmy, mais je ne sais pas.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a une réalité objective, mais effectivement, elle sert tous les prétextes. C'est-à-dire que, là encore, la compétence que nous avons à lutter contre le froid, c'est une réalité, mais il y a aussi la lecture que nous avons du froid. Si vous avez une envie, si vous êtes amoureux de la neige, vous n'avez qu'une espérance quand c'est l'hiver, c'est d'aller au ski, c'est de voir la neige, c'est aller avoir une grosse doudoune, vous rentrez pour un thé chaud, et là, vous n'avez pas cette notion de froid. Mais d'autres, vous voyez bien qu'ils vont fuir, autant dès qu'ils le peuvent, fuir la saison d'hiver, aller dans un lieu d'été, parce que l'hiver, ils ne se sentent pas en tranquillité, compétent à se sentir libre. Tout ça, c'est un encombrement qui raconte des tas de choses personnelles. Encore une fois, nous n'avons pas tous la même culture, nous n'avons pas tous les mêmes histoires, nous ne mettons pas de la joie à toutes les saisons de la même façon. Et donc, effectivement, nous utiliserons tous les prétextes, notamment qu'il fait trop froid, comme on utilise le prétexte « demain, il y a école », où il y a du travail, où en ce moment je suis stressée, où il y a les enfants. Tout ça, ce sont des réalités. mais elles permettent de cacher aussi notre difficulté à trouver de l'entrain par nous-mêmes, en nous-mêmes.
Alexis dit vraiment que chez lui, ça revient, cette baisse brutale de la libido de manière cyclique chaque hiver. Et il demande même si vous pensez qu'il doit consulter un médecin. Parce qu'effectivement, il y a peut-être une vraie dépression saisonnière. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire de la luminothérapie. Est-ce Absolument. Que tout ça pourrait améliorer sa libido en traitant oui. la dépression saisonnière, finalement ?
Absolument. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des neurotransmetteurs. C'est effectivement, vous avez raison, Mélanie, de rajouter la luminothérapie qui est absolument formidable parce que les gens ont besoin, surtout avec le confinement, ils sont restés très enfermés, ils sont restés sur leurs écrans, souvent dans des pièces pas lumineuses parce qu'il fallait laisser le reste de la famille dans les pièces de vie. Donc effectivement, les gens ont été particulièrement éprouvés et déprimés. Alors il y a, dans le cas d'Alexis, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'acédonalité de sa souffrance. Et la moindre des choses, effectivement, c'est pas de faire l'ours tous les hivers, mais peut-être aller s'offrir la possibilité de comprendre ce qui se joue, ouvrir le champ des possibles pour un peu plus de joie, sans parler de sexualité, mais au moins un peu plus de joie interne.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Sans rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.
Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous laisse avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Oui, écoutez, voyez avec mon agent.
Oui. Aujourd'hui, nous parlons d'impressionnants impresarios.
Pourquoi ça serait drôle que j'ai un agent ?
Oui, pourquoi ?
Vous pourriez.
Parce que eux, ils en ont eu. Oui. Vous connaissez le colonel Parker ? Eh ben, il s'est occupé de la carrière d'Elvis Presley. Domenico Barbaia, ben, lui, s'est occupé de découvrir Rossini. Et vous avez trouvé un agent ?
Oui, Lou Pearlman. On lui doit les Backstreet Boys et les NSYNC. Il a lancé la mode des boys bands. Il est mort en prison, il avait fait quelques petites malversations entre temps. On fera pas Dominique Besnéard parce que je crois que vous l'imitez bien, Stéphane.
Ah oui ?
Si vous vouliez.
Rien que pour ça, on sera là évidemment avec le docteur Jimmy Mohamed. On va vous écouter et vous aussi, surtout restez sur Europe 1.